France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors que ce week-end, le zoo de Beauval a été cambriolé malgré la présence de bestioles avec beaucoup de dents, alors que Laurent Delahousse a évoqué hier ce beau pays qu'est l'Afrique, et que Bruce Toussaint, oui, nous quitte, hein, et comme nous partageons le même bureau avec Bruce, maintenant la question qui se pose, c'est qui va garder la graffeuse. Voilà, il va falloir qu'on se parle. Il était temps, en tout cas, que l'on revienne, et ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Motarivet, bonsoir.
Bonsoir.
Également Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
De West France, Pierre Jacquemin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la revue Regard. Et François Dorcival, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Valeurs Actuelles. Et ce soir, nous parlerons de CAC 40, hein, ça marche pour les dirigeants d'entreprise. Attentat de Paris, la récupération n'atteint plus le nombre de minutes. SNCF, le temps se durcit. Mais juste avant, nous recevons Marc Saguier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes chef du service Moyen-Orient à Courrier International, avec lequel France Info s'est associé cette semaine pour votre numéro spécial 70 ans d'Israël, 70 ans pile aujourd'hui et jour choisi par les États-Unis pour transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Une journée qui a été émaillée de violence à la frontière entre Israël et les territoires palestiniens, puisque le bilan est lourd, voire très lourd. 52 Palestiniens tués, 200 manifestants ont été blessés sur place. D'ailleurs, le contraste est assez saisissant aujourd'hui entre cette inauguration à Jérusalem et les heures qui se déroulaient, mais quelques kilomètres plus loin, à 60 kilomètres plus loin. On va écouter déjà l'ambiance qu'il y avait lors de l'inauguration de l'ambassade d'Israël avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Ceci est un moment d'histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire.
Voilà, Benjamin Netanyahou, donc, cet après-midi à Jérusalem pour l'inauguration de l'ambassade américaine. Et quelques kilomètres plus loin, voilà quelle était plutôt l'ambiance, et voir la sensation et surtout voir la tension avec ce témoignage d'un Palestinien qui manifestait au milieu justement de cette crise et du chaos. On l'écoute.
Le transfert de l'ambassade américaine va provoquer une éruption parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Cette décision est une promesse maudite de Trump, nous ne l'acceptons pas et nous n'y croyons pas.
Voilà, une promesse maudite de Trump. Marc Saguier, aujourd'hui quand on voit les heurts très importants, 52 morts, près de 2000 blessés, à la base, quelle est l'origine de ces manifestations? Est-ce que c'est le déplacement de cette ambassade à Jérusalem ou les 70 ans d'Israël?
Moi, je pense que les deux événements sont liés quelque part et je pense que dans cette tragédie, les responsabilités sont un peu partagées. Je pense qu'il ne faut pas être un habile stratège pour comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure de Trump, aller manifester sur la frontière entre Israël et Gaza n'aura aucune répercussion positive sur les Palestiniens. Il n'y aura que des morts. Et donc, c'est complètement impossible de la part du Hamas d'envoyer ces gens se faire tuer comme ça bêtement sans aucun espoir de quoi que ce soit de changement. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, effectivement, on est un peu abasourdi par le bilan désastreux quand même. C'est quelle facilité de tirer en quelques heures un millier de morts, un millier de blessés, 51 morts, c'est énorme.
Alors une chose, Marseillais, depuis des semaines il y a des manifestations, des violences, des morts. Pourquoi d'un coup ce regain de tension? Enfin, pourquoi je dis d'un coup d'ailleurs, parce que on a l'impression qu'on s'y intéresse davantage, ou c'est le cas depuis très longtemps?
Moi je pense que Jérusalem est devenue quelque chose, n'est plus une ville, elle est devenue une sorte d'obsession idéologique, aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens, que chez les Arabes, que chez les musulmans. Et je pense qu'actuellement, d'ailleurs depuis les années 2000, on avait l'impression que c'était beaucoup plus simple de régler la question de la terre, de l'eau, des réfugiés, mais que ce petit périmètre qu'on appelle le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées, on n'arrive pas à le régler. Et je pense que c'est ça l'emprise de religieux sur ce conflit qui ne ressemble à aucun autre conflit sur Terre aujourd'hui.
François Orsival, c'est vrai, ce soir la France a appelé l'ensemble des acteurs à prévenir un nouvel embrasement. Emmanuel Macron souhaite appeler, alors comme il dit, tous les acteurs régionaux pour essayer de calmer le jeu. Pourtant, on voit quand même clairement un regain de tension depuis une semaine, depuis que les Américains se sont retirés quand même de l'accord sur le nucléaire iranien.
Absolument.
On focalise davantage sur Israël.
Oui, et pourquoi ? Il faut bien comprendre que Gaza, c'est une enclave du Hamas. Gaza, ce sont des Palestiniens qui ne sont pas du tout sous l'autorité de l'autorité palestinienne, ils sont Hamas. Le Hamas est quand même une branche des Iraniens. Et à partir de là, on comprend mieux ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire cette espèce de marche à répétition vers la frontière d'Israël, de ces foules qui se succèdent, et l'armée israélienne, comme l'a dit votre correspondant, tout était écrit. C'est-à-dire que l'armée israélienne avait prévenu, de même que les gens du Hamas avaient prévenu.
Même si on prévient quand même 52 morts, on se dit, c'est quand même, le bilan est effrayant.
C'est effrayant, effrayant, je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux pas exclure que ce soit le prix à payer de cette succession. Vous savez, l'intifada, ça a été ça aussi. Et là, nous avons une intifada massive à partir de Gaza.
Marc Séguier, on est là-dessus. C'est justement, c'est Gaza, c'est particulier ou c'est vraiment au contraire? Aujourd'hui, on le voit toujours.
Gaza, c'est particulier parce qu'ils sont depuis 12 ans quand même sous embargo. Ils sont 1,5 million dans un territoire tout petit. Ils n'ont ni présent ni avenir. Donc, effectivement, c'est très facile de manipuler les gens à Gaza, c'est clair, quoi.
C'est ça. Alors, quand on voit ça, Aurélie Montarrivé, c'est vrai que ce bilan, ce mélange, voilà, entre l'anniversaire de la création de l'État Israël, enfin, on se rend compte que de nouveau, la crise reprend. Finalement, on pensait, c'était loin des radars médiatiques.
Je crois que cette séquence, malheureusement, est très symbolique de l'approche diplomatique de Donald Trump, qui, au fond, est dans l'anti-diplomatie permanente. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe. Il n'est pas du tout dans la réparation, dans le fix-it, mais il est dans le nix-it, dans l'espèce de suppression, finalement, une forme de nihilisme dans son approche. C'est intéressant en termes de méthode, puisque traditionnellement, un diplomate essaie de maintenir le lien et le dialogue jusqu'au bout et essaie de limiter les dommages collatéraux. Là, c'est tout l'inverse. Il survalorise, finalement, ses alliés. Plutôt que de parler avec ses ennemis. Et finalement, on a l'impression que les dommages collatéraux n'ont pas d'importance dans cette séquence.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron condamne les violences à Gaza. Le président de la République annonce ce soir qu'il parlera à tous les acteurs de la région dans les prochains jours. En marge de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, l'armée israélienne a tué au moins 52 manifestants palestiniens, dont 8 enfants de moins de 16 ans, blessé également 2200 personnes. C'était à la frontière avec Israël. La garde à vue prolongée pour la mistra bourgeois de Khamzat Azimov ce soir à Levallois-Perret. L'homme de 21 ans a été interpellé hier dans la capitale alsacienne. Garde à vue prolongée également pour les parents de l'assaillant après l'attaque mortelle au couteau samedi soir, place de l'Opéra à Paris. À la SNCF, c'est un lundi sans cheminots et sans train, et avec plus de 27% de grévistes, les syndicalistes ont réussi aujourd'hui à redonner de la vigueur à la grève. Au 18e jour de conflit, la SNCF annonce pour demain 9 TER sur 10, une circulation normale des TGV et des trains internationaux. À l'université de Limoges, les examens débuteront finalement mercredi. Les partiels ont été reportés plusieurs fois à cause du blocage des locaux. En revanche, à l'université Lumière Lyon 2, les épreuves sur table sont annulées et remplacées par des modalités de contrôle des connaissances alternatives. Et puis l'Allemand Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du PSG. Le club de Ligue 1 l'annonce ce soir. C'est l'ancien entraîneur de Dortmund. Il signe pour 2 ans avec les Parisiens.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce bilan lourd, très lourd, 52 morts, près de 2000 manifestants blessés aujourd'hui, c'est aux manifestations qui ont eu lieu dans la bande de Gaza, au même moment que l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Avec nous Marc Saguier, donc, qui est chef du service Moyen-Orient à Courrier International. Une question, c'est comment la société israélienne évoque ce déménagement. Est-ce que les Israéliens soutiennent en majorité ce déménagement des Américains, de reconnaître également Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël?
Oui, je pense qu'il y a actuellement une radicalisation partout au Moyen-Orient, aussi bien dans la société israélienne que dans les sociétés arabes. Et en plus, On ajoute à cela que Jérusalem a été quand même très centrale dans l'histoire du judaïsme, dans le judaïsme, et donc effectivement, même les gens de gauche seraient plutôt favorables à ce déménagement, mais il y a certainement toujours quand même des organisations, des ONG, des mouvements civils, des gens à la gauche de la gauche, qui trouvent que c'est quand même un moment assez dangereux ce qui se passe actuellement.
Pierre Jacquemin, vous, quand vous avez vu ces images, justement aujourd'hui, vous dites comment ça reprend, c'est un cycle perpétuel de violence.
Oui, j'ai surtout vu beaucoup de cynisme en fait de la part du Premier ministre Netanyahou et aussi de la part de la famille Trump, parce que c'était la fille Trump qui était présente sur place, et les termes utilisés d'ailleurs de Netanyahou quand il disait « Quel jour glorieux, rappelez-vous ce jour », comme si c'était un jour historique. C'est vrai que c'est sans doute un jour historique qui s'est passé aujourd'hui. La fille de Trump, reconnaissant la ville de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, rajoute à la confusion et sans doute aussi à la colère du peuple palestinien, puisque la question de Jérusalem n'est toujours pas réglée, même sur le plan international, ça n'est pas reconnu comme étant la capitale de Jérusalem. Et puis, de manière générale, il faut quand même aussi dire les choses, c'est-à-dire qu'Israël dépasse, ou en tout cas viole les lois et le droit international, et qu'à un moment donné, cette communauté internationale, là, l'ONU, aujourd'hui, est totalement discréditée en ne donnant pas de sanctions aussi vis-à-vis d'Israël, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on a, vous l'avez rappelé, une bande de Gaza qui est totalement asphyxiée économiquement, une population qui n'a plus de quoi manger, n'a plus de quoi s'alimenter, de chercher de l'eau aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Tout ça est un véritable problème. On est avec un gouvernement, une coalition au gouvernement depuis 2015, qui est la plus anti-palestinienne depuis des années. Alors, donc le conflit avec le verdict et le poids de Trump par-dessus ne va rien arranger.
Marseillais.
Oui, un petit mot sur Jérusalem. Je pense que même dans les familles les plus laïques, on a tous été bercés par les histoires de la Bible et on a vu combien c'était important pour le judaïsme, Jérusalem. Chez les chrétiens aussi, Jésus, une fois né, immédiatement est amené à Jérusalem. Il prêche à Jérusalem, il meurt à Jérusalem, mais on oublie quelque chose de très important, c'est que cette ville, pendant au moins 12 siècles, a été une ville musulmane, majoritairement musulmane, gouvernée par des musulmans, et quand les croisés sont venus passer un siècle, ils sont repartis en donnant les clés de la ville aux musulmans. Et donc, si ces 12 siècles ne figurent pas dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé.
C'est ça. Alors Stéphane Dernay, vous, quand vous voyez en effet ce regain aussi de violence, pour vous, est-ce que c'est, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie Montarivet, sur cette politique étrangère de Donald Trump qui nous paraît indéchiffrable?
Elle n'est pas indéchiffrable. C'est-à-dire que, en fait, c'était une de ses promesses de campagne. Et encore une fois, Donald Trump, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Donc, il l'avait promis, il l'a fait. Il l'a annoncé en décembre. Mais
également, George Bush Jr. l'avait fait. Bill Clinton l'avait promis. Oui, tout le monde l'avait promis et lui le fait.
Alors, non, mais lui, il fait vraiment ce qu'il annonce. C'est-à-dire que, on continue à penser qu'on arrivera à faire revenir à la raison ce monsieur. Mais non, il dit ce qu'il va faire et il le fait vraiment. En dépit de toute raison et malgré les menaces qu'il fait peser sur le monde. Parce que, la problématique de cette décision, c'est que effectivement, elle intervient dans un contexte qui est très lourd. Les violences autour de la bande de Gaza, à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, elles ont eu un regain. Elles ont connu un regain ces dernières semaines, ces derniers mois. Tous les vendredis, il y a des marches pour les droits. Effectivement, c'est une population qui est asphyxiée et qui entend pouvoir traverser la frontière, revenir. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de la création d'Israël. Et en même temps, demain, le 15 mai, c'est ce que fêtent les Palestiniens, enfin fêtent, ce que célèbrent les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe. C'est l'expulsion de 700 000 Palestiniens en 1948. Donc vous voyez que le contexte est délirant. Et choisir ce jour pour inaugurer une nouvelle ambassade, c'est terrible parce que en réalité, le fait que les États-Unis décident de mettre leur ambassade à Jérusalem, c'est une façon de dire qu'il n'y aura pas d'État bipartite, que c'est fini. Eux, les États-Unis, choisissent que Israël est entièrement maître du territoire. C'est une façon de mettre un coup d'arrêt à tout espoir
diplomatique
de...
et mais, qu'il y a eu dans
mais
la région,
à tout espoir. Et ils font la même chose avec l'accord sur le nucléaire en Iran. Et c'est très grave.
Aurélie Montarivet.
Et comme le dit Stéphane, je crois qu'il y a effectivement rien n'est laissé au hasard. C'est ça qui est terrible et c'est assez cynique, comme vous le disiez, puisqu'on est dans une stratégie de mise en scène poussée à l'extrême. Le timing, vous l'avez évoqué, les commémorations. Donc, c'est vraiment prendre un risque d'explosion dans la région qui me paraît inconsidéré, honnêtement. Donc, il y a ce premier élément. Et si on regarde la mise en scène, vous montriez tout à l'heure les images.
C'est
intéressant,
le contraste.
C'est la mise en scène de la dynastie Trump avec sa fille et son gendre. Donc ça, je trouve que on est quasiment en fait dans le feuilletonnage et la télé-réalité diplomatique.
Marseillais, quand on voit aujourd'hui, donc on en parle justement des 70 ans d'Israël. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Israël imaginé par ses fondateurs et l'Israël d'aujourd'hui?
Ben, l'Israël imaginé par ses fondateurs était un État laïque, un État ouvert, n'était pas du tout ce qui est devenu aujourd'hui. Et puis l'Israël, le projet sioniste n'était pas un projet colonialiste. Il n'avait aucune envie ni d'exploiter les autochtones, ni de les chasser peut-être, mais en tout cas pas de les exploiter. Et aujourd'hui, on voit quand même une situation, en tout cas en Cisjordanie, qui ressemble un peu à l'apartheid quand même.
Oui, c'est ça, oui, François Orsula.
Oui, mais enfin... Nous fêtons effectivement, enfin, Israël fête aujourd'hui le 70e anniversaire de sa création. On ne peut pas oublier que le soir même de la proclamation de l'indépendance de l'État hébreu, s'est déclenchée une guerre à toutes ses frontières. Toutes ses frontières. Que l'État hébreu a donc eu à supporter cette guerre de 1948, qui a recommencé en 1956, puis de nouveau en 1967, en 1973, etc. Donc, il faut bien comprendre l'histoire de chaque pays. Vous avez rappelé les millénaires de Jérusalem sous influence ottomane et musulmane. Très bien. Mais évidemment, ce pays, lui, il est inscrit dans la Bible. Et alors, Jérusalem, il n'y a pas plus symbolique que cette ville-là. Ce n'est pas une ville comme les autres.
Je crois que Jérusalem est devenue très importante au cours des 30 dernières années. Avant, aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens, il y avait d'autres symboles. Les Israéliens montraient le kibboutz, le moshav, Tel Aviv, une ville brillante, etc. Et les Palestiniens montraient, pour eux, le symbole de leur nationalisme, c'était les orangers de Jaffa, l'olivier, la clé de la maison. Et aujourd'hui, tout le monde se braque sur cette Jérusalem-là, et ça devient un peu étouffant.
Aujourd'hui, qui le veut ?
Pierre Jacquemin.
Enfin, vous parlez de l'histoire, effectivement, de Jérusalem et du peuple juif. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, et il faut le reconnaître, il faut le dénoncer, je le crois, la politique d'annexion, puisque ce n'est même plus une politique de colonisation des territoires palestiniens, est un véritable problème. Aujourd'hui, même, il y a un événement majeur qui a été voté le 6 février dernier à la Knesset, je crois. C'est l'extension, c'est la souveraineté israélienne qui est étendue aujourd'hui au territoire palestinien. C'est un problème, quand même, de souveraineté des peuples et de souveraineté du peuple palestinien. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement israélien à l'égard du peuple palestinien est un problème de démocratie, est un problème humanitaire, est un problème de violation, là aussi, encore une fois, du droit international. Et c'est ça le véritable problème. Oui, il y a l'histoire du peuple juif qui doit être respectée, mais il y a aussi une histoire du peuple palestinien qui doit être aussi respectée. Voilà. Et ça, aujourd'hui, la communauté internationale...
Juste pour terminer,
je pense qu'il y a deux récits. Au moment où naît le nationalisme juif sous la forme de sionisme, naît le nationalisme arabe. Et personne, aucune partie n'a envie d'écouter le récit de l'autre de peur de perdre sa légitimité. Et je pense que le jour où chacun écoutera l'autre, on pourra un peu avancer.
Merci beaucoup en tout cas, Marc Saguier. Je rappelle Courrier International de la semaine avec France Info, c'est ça qui est incroyable. 70 ans d'Israël, une histoire à deux voix. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
L'ambassade des États-Unis inaugurée à Jérusalem, mais cette journée est surtout marquée par la violence. La Maison-Blanche condamne ce soir le Hamas et déclare qu'Israël a le droit de se défendre. En fin d'après-midi, Mahmoud Abbas dénonçait, lui, un massacre israélien. Le président palestinien refuse toute médiation de paix américaine. Le bilan passe ce soir à au moins 53 morts et 2200 blessés. L'armée israélienne a tiré sur les manifestants massés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les communications téléphoniques entre Orange et plusieurs opérateurs rétablis peu avant 17h. Ces communications sur fixe ou portable étaient fortement perturbées depuis ce matin à la suite d'un problème technique. Plusieurs milliers d'abonnés ont été touchés de façon aléatoire dans toute la France. La SNCF porte plainte après une cinquantaine d'incidents toute cette journée. Incidents, actes de malveillance comme cette coupure d'alimentation électrique à Marseille ou encore le sectionnement d'une caténaire en Normandie. Ces faits interviennent en pleine journée de mobilisation renforcée des grévistes opposé à la réforme du ferroviaire. Les premières régularisations en vue à Notre-Dame-des-Landes, Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, parle ce soir d'une quinzaine de projets agricoles. Ils vont faire l'objet d'ici quelques jours de ces autorisations, sans toutefois lever la menace de nouvelles expulsions pour les autres militants encore sur ce site de Loire-Atlantique. Et puis Joe Wilfried Tsonga jette l'éponge pour Roland-Garros. Le tennisman français se remet d'une opération au genou gauche et le tournoi de tennis de la Porte d'Auteuil débute à la fin du mois.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, prendre un TGV un jour de grève, ça peut vraiment nous faire dire, oui, l'aventure existe encore. Hein. De bon matin, hier, entre la Côte d'Azur et Paris, nous nous sommes retrouvés dans un train qui semblait revenir du front. Voilà, tout simplement, avec des gens allongés dans le couloir, d'autres pensant que les toilettes étaient une place comme une autre, hein, finalement. Et arriver au wagon-bar, surprendre cette conversation, j'habite Bordeaux, mais aller à Paris, ça me rapprochera toujours. Voilà, donc faut être optimiste hein, dans ces cas-là. 18e jour de grève donc et un sursaut de mobilisation chez les grévistes. En effet, toute la journée, TGV, TER et Transilien ont été fortement perturbés et le taux de mobilisation s'établissait à 27,58% dans l'entreprise contre 14,46% le 9 mai dernier. Les plus mobilisés se trouvent chez les contrôleurs et conducteurs. Une journée symbolique pour les syndicats qui avaient appelé à davantage de mobilisation pour peser sur le gouvernement, notamment ce lundi 14 mai, début du vote, hein, vous savez, organisé par les syndicats pour connaître l'avis des salariés du groupe ferroviaire sur le pacte hein, proposé par le gouvernement. Baroud d'honneur ou regonflage à bloc, inutile de se poser la question, selon le porte-parole de Sudrail, Fabien Villedieu.
Les plus optimistes nous expliquaient que la grève allait mourir de sa belle mort à partir de cette semaine. Les moins optimistes la semaine prochaine. Bon, bah voilà. Là, on vient aujourd'hui de donner un second souffle à la mobilisation. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter et de reprendre le travail. Donc, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement y commence soit à négocier, soit à reculer.
Fabien Villedieu, donc voilà. Porte-parole de Sudrail, Stéphane Vernet, vote à l'Assemblée nationale, rencontre avec Édouard Philippe, la mobilisation, là aujourd'hui, ne faiblit pas, au contraire, elle repart, donc ça veut dire quoi, ça peut continuer ainsi, en faisant des yo-yo comme ça de mobilisation?
Bah écoutez, je sais pas. Je pense qu'il faut attendre aussi le résultat de la vote action. C'est intéressant là, la fameuse consultation qui dure cette semaine. On verra bien quel est le niveau réel de mobilisation. Ça changera pas l'issue du conflit parce que quels que soient les résultats, je pense que les grévistes, les durs, continueront à prôner la grève et voudront poursuivre le mouvement. Et de toute façon, je vois pas le gouvernement fléchir sur ses par rapport à ses positions, puisque de toute façon, le cœur du problème, c'est ce qu'on appelle le cœur de la réforme et la semaine dernière, le Premier ministre a dit très clairement que sur les trois points principaux, il ne changerait pas. C'est-à-dire, l'ouverture à la concurrence, elle sera maintenue, la réforme du statut de l'entreprise sera maintenue et la fin du recrutement au statut de cheminot. Or, les syndicats les plus durs espèrent un recul du gouvernement sur ces questions. Il ne reculera pas. Moi, je crois que c'est pas possible. Ce que j'observe, ce que je trouve intéressant, c'est que à la veille de cette nouvelle forme de mobilisation, qui est encore une fois intéressante, ça permettra à tout le monde de se compter dans cette histoire, on voit qu'il y a eu des fuites très opportunes.
Oui, alors tout à fait, voilà, hier,
sont tombées.
Voilà. C'était un petit peu maladroit, non?
Non, mais tout dépend qui organise les fuites.
Oui, voilà.
Mais alors, ceci dit, donc on relance le spectre de la privatisation,
c'est ça,
sauf que la loi est très claire. Il n'y a pas de privatisation possible de la SNCF. En tout cas, telle qu'elle existe aujourd'hui. Sauf qu'il y a un autre document qui montre qu'au-delà de la holding, il y aura quatre entités.
C'est la porte ouverte à la vente des titres des filiales, en fait, hein, de la SNCF.
La loi ne le permet pas.
Voilà, permet pas. Pierre Jacquemin.
Les notes, elles arrivent jamais par hasard sur la table des ministres. À un moment donné, il y a les conseillers des cabinets ministériels qui passent des commandes aux administrations. Je dis pas que ça a été acté, que ça a été validé par la ministre. En même temps, si c'est dans les tuyaux, c'est que ça a bien dû être pensé, ça a dû être calculé, il n'y a pas eu d'arbitrage favorable. Le débat sur l'incessibilité, justement, des actions de la SNCF, aujourd'hui visiblement est tranchée. D'ailleurs, les députés de la France Insoumise, il y a d'autres députés, d'ailleurs, je crois, du groupe communiste qui avaient proposé ça en amendement à l'Assemblée nationale lors du débat parlementaire, a été retoqué par le gouvernement. On comprend pas très bien pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il s'apprête à dire à donner un feu vert sur cette incessibilité à M. Berger, à la CFDT. Donc, bon, de toute façon, quand il y a à un moment donné verrouillage du débat social, hein, puisqu'il y a quand même très peu de négociations sur ce projet de réforme, le conflit ne peut que prendre. Ne peut que s'intensifier. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats sont dans une stratégie de comment aujourd'hui on intensifie le mouvement. Et on voit bien d'ailleurs, je dis pas que c'est le cas de la CFDT, encore que les militants de la CFDT, c'est pas Laurent Berger, parce que eux, ils sont dans la rue, ils sont dans les grèves.
Laurent Berger a dit après sa rencontre avec Édouard Philippe que ça continuait. Hein,
ça continue, certes. Donc, ils sont pas pour une radicalisation du mouvement. Mais on voit bien que la CFDT, la CGT ou une partie de Force Ouvrière et même de Sudrail sont pour aujourd'hui des mobilisations nouvelles. Il y a effectivement la votation. On ne change pas une entreprise sans le consentement des salariés.
On va en parler de cette votation, justement. Aurélie Motte arrivée. On a très peu de temps, mais justement, au départ, sur cette votation, on a souvent comparé ça à Air France. La seule différence, c'est qu'Air France, c'est la direction. qui propose, là, ce sont les syndicats. Et le gouvernement et la direction de la SNCF ont expliqué qu'ils ne tiendront pas compte de ce vote. Donc, à quoi ça sert?
Ben, je pense que, au-delà, effectivement, d'Air France et de la SNCF, qui posent d'ailleurs, je pense, dans les deux cas, la question du nouveau rapport des salariés à l'entreprise, je pense que c'est ça la vraie question qu'il y a derrière. Et on peut se demander si, de la part des syndicats, c'est pas un pari un peu risqué, puisque, en accréditant cette forme de démocratie directe, est-ce que, d'une certaine manière, ils ne discréditent pas leur propre représentativité? C'est intéressant. Est-ce qu'ils sont pas, en fait, en train de se disrupter eux-mêmes?
C'est-à-dire, c'est exactement, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qu'ils disaient, eux, à propos de la consultation d'Air France, en disant « elle a de toute façon pas de légitimité ». Voilà. Donc la grève peut continuer.
Donc maintenant, on peut leur retoquer aussi. À ce moment-là, si, comme ils ont gagné, ça veut dire que maintenant, ça peut avoir la légitimité aussi.
Oui. On peut tout dire, on verra bien dans quelles conditions ça se déroule aussi, parce que, bon, mettre un tract ou un bulletin de vote, il faut voir ce qu'il en est. Mais, bon, en réalité, ils sont engagés dans une course dans le domaine de l'opinion. Voilà. Ils savent très bien que jusqu'à aujourd'hui, l'opinion ne soutient pas la grève et l'opinion soutient massivement la réforme.
Alors,
et tout leur problème consiste à retenir cette opinion et à remobiliser des troupes dont on voyait bien la semaine dernière qu'elles étaient en train de se détendre.
On va continuer à en parler de la SNCF aussi, de ce vote action qui a commencé aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. On parlera également des suites de l'attentat survenu à Paris samedi. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Allô?
Bonjour, j'appelle pour l'annonce occasion exceptionnelle BMW.
Ah, vous êtes intéressé?
Peut-être. Vous avez fait les 101 points de contrôle mécanique et les 53 points de contrôle esthétique, comme chez BMW?
Bah, je l'ai juste photographié.
D'accord. Et vous offrez la garantie, l'assistance kilométrage illimitée pendant 24 mois.
Oula, c'est beaucoup ça.
Et vos conditions de financement?
Ah, c'est paiement comptant.
Bon, merci. Mais pour une occasion exceptionnelle BMW, je vais aller chez BMW.
BMW Premium Selection. Les voitures d'occasion certifiées BMW, c'est uniquement chez BMW.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ce sera mieux au nord qu'au sud. Demain, des Pyrénées vers le Massif central, Rhône-Alpes, la Franche-Comté, il pleuvra. Ce sera de la neige vers 2000 mètres sur les Pyrénées, sur le nord des Alpes. Les pluies s'espaceront l'après-midi. Ça tournera à l'orage des Alpes au sud de l'Alsace. Autour de la Méditerranée, encore des nuages et quelques pluies possibles en matinée. Puis de belles éclaircies, mais beaucoup de vent, jusqu'à 100 km à l'heure pour la Tramontane. La Corse aura droit à des averses orageuses toute la journée. Sur la moitié nord, le soleil s'imposera après la grisaille du matin. L'après-midi, on ne sera pas à l'abri d'une ondée entre les frontières du Nord, la région parisienne, le centre, la Bourgogne, peut-être un coup de tonnerre. Les températures seront en hausse, 6 à 12 degrés le matin. L'après-midi, seulement 12 à 19 degrés pour le sud-ouest, 12 degrés à Aurillac, Tarbes, 14 à Toulouse, 19 à Bordeaux. Ailleurs, 17 à 23 degrés, 20 à Rennes, Mulhouse, Lyon et Nîmes, 23 à Lille et Paris.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La Maison-Blanche dénonce ce soir la responsabilité du Hamas dans les violences à Gaza. Washington qui reconnaît à Israël le droit à se défendre. L'armée israélienne a tiré aujourd'hui sur des manifestants gazaouis, bilan au moins 52 Palestiniens tués, également plus de 2000 blessés. Un cortège opposé à l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine de Jérusalem. Emmanuel Macron a lui aussi réagi par communiqué ce soir condamnant les violences. Il promet de parler dans les prochains jours à tous les acteurs de la région. La situation rentre peu à peu dans l'ordre sur les réseaux français de téléphonie mobile. Toute la journée, une panne a gêné les appels entre Orange et les autres opérateurs. Isabelle Chailloux, Orange, qui a présenté cet après-midi ses excuses.
Cette panne concerne les appels fixes et mobiles, mais ni Internet, ni les SMS. Orange reconnaît être à l'origine de cet incident. Ce qui ne fonctionne plus, ou très mal, depuis ce matin, c'est l'interconnexion avec les autres opérateurs. Autrement dit, pas de problème pour des appels entre deux clients d'Orange ou deux abonnés SFR, par exemple. En revanche, la liaison peut s'avérer impossible ou de très mauvaise qualité si vous êtes chez Bouygues, Free, SFR et essayez de joindre un abonné Orange. Même chose depuis Orange vers les autres opérateurs. Orange n'a pour l'instant pas identifié les causes de cette panne et dit se concentrer sur le rétablissement du service. L'opérateur assure toutefois qu'il s'agit d'un incident technique et pas d'un acte malveillant.
Isabelle Chailloux, une pause dans la grève des cheminots, elle reprendra vendredi. Ils sont appelés à se prononcer depuis ce matin et jusqu'à la fin de la semaine sur la réforme en cours de la SNCF. Trois quarts des contrôleurs et des conducteurs de la compagnie avaient cessé le travail aujourd'hui. Une quinzaine de projets agricoles sont éligibles à une convention d'occupation précaire. Ça concerne la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, annonce du ministère de l'Agriculture. La manifestation ce matin devant la préfecture de Nantes a rassemblé 300 personnes. Manifestation contre la reprise des expulsions sur le site. Les trois gardes à vue se poursuivent ce soir dans l'enquête sur l'attaque au couteau de Paris, samedi soir. Il s'agit des parents du tueur et de l'un de ses amis strasbourgeois. Laurent Wauquiez des Républicains demande à l'Élysée de réunir les différents responsables de partis politiques français. Un rendez-vous pour évoquer les mesures à prendre face au terrorisme. L'homme d'origine tchétchène a tué une personne et en a blessé quatre autres. Il n'y aura pas d'examen sur table en cette fin d'année à l'Université Lyon 2, annulation annoncée ce soir. La direction prépare une méthode d'évaluation alternative. Ce matin, l'université de Rennes 2 a été évacuée par la force. À Limoges, les examens ne démarreront que mercredi. Ils se sont en revanche déroulés comme prévu à Nantes, malgré la mobilisation de bloqueurs qui ont été dispersés par les CRS. Thomas Tuchel sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, 44 ans. Il avait gagné la Coupe d'Allemagne l'an dernier avec le Borussia Dortmund, également vice-champion de Bundesliga. L'année précédente, il remplacera l'Espagnol Unai Emery. Jean-Mathieu Pernin est de retour. La suite des informés, il est 20h33 sur France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils virevoltent, voilà, tout simplement, d'actualité en actualité dans le carré VIP de l'info. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la communicante Aurélie Motarivé, également Stéphane Vernet de Ouest France, Pierre Jacquemin, également directeur de la revue Regard, et François Lorcival de Valeurs Actuelles. Nous parlons de la SNCF. Vous savez, aujourd'hui, il y a un regain de mobilisation. Il y a eu davantage de trafic perturbé, davantage de grévistes également. Juste, Stéphane Vernet, à propos de cette consultation, justement, qui commence à partir d'aujourd'hui, ce vote-action, hein, surtout ne pas dire consultation ni référendum, mais vote-action, c'est important. Pour vous, est-ce que ça peut peser, ça peut servir véritablement à quelque chose?
Non, alors, ce que je disais tout à l'heure, ça va servir aux grévistes à se compter et voir quelle est l'importance du mouvement ou de mécontentement à l'intérieur de l'entreprise. Mais à mon avis, il y a un malentendu. C'est-à-dire que dans la bataille de l'opinion qu'évoquait François Dorcival tout à l'heure et qui existe, vous avez en fait les cheminots, le personnel SNCF qui est tellement impliqué, tellement engagé dans la défense du service public qu'ils opèrent à mon avis une confusion. C'est-à-dire qu'ils finissent par estimer que eux incarnent le service public et que la SNCF c'est eux. Alors que ce service-là, il existe en dehors d'eux, en dehors de la SNCF et au-delà. Je m'explique, aujourd'hui, le fonctionnement de la SNCF est perfectible. Il y a quand même des problèmes. Ça ne marche plus comme ça a marché. Il y a une ardoise énorme. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une attention du grand public ou de l'opinion publique au service rendu au public.
Alors justement, à propos de service rendu, aussi Stéphane Vernet, la question que beaucoup de gens se posent, qu'on soit pour ou contre la réforme, mais c'est est-ce que cette réforme va permettre de faire arriver les trains à l'heure? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est tout simplement?
Non, mais justement, tout l'enjeu est là et tout dans cette fameuse bataille de l'opinion, la distorsion, elle est là. Si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il faut faire quelque chose pour rétablir la SNCF et que ça passe par une réforme. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Je ne sais pas. Mais si on ne fait rien, ça n'aboutira pas, ça ne changera pas. Il y a cette volonté-là. Alors, et quand je parle de malentendu, c'est que si le référendum donne une majorité au sein de l'entreprise pour ne pas faire cette réforme, je pense qu'elle n'aura aucune valeur aux yeux de l'opinion. En tout cas, ça ne pèsera pas.
François Orsival.
Non, si on ne fait rien, ça continuera de se déglinguer. Ça se déglingue de toutes parts. On le sait très très bien, les trains qui n'arrivent plus à l'heure, c'est bon. Et donc, quelle est la clé dans tout ça? C'est ce qu'ils refusent. Ils défendent le service public pour ne pas avoir de concurrence. Or, la concurrence, même si c'est une société à capitaux publics, c'est le seul système qui fera qu'on investira, qu'on reconstruira, qu'on remettra les choses en route. S'il n'y a pas de concurrence, ça se continuera à se défaire.
On a une petite expérience depuis quelques années avec le fret ferroviaire. On peut vous assurer qu'aujourd'hui, le système de la concurrence ne renchérit pas, ou en tout cas, n'est pas le bon système pour le fret. En tout cas, l'expérience qui a été faite, celle de la mise en concurrence du fret, montre qu'aujourd'hui, les entreprises privées qui ont intégré le fret perdent de l'argent énormément. Donc, ce n'est pas le sujet.
La SNCF aussi perd de l'argent sur le fret. Nous faire croire
que c'est le statut des cheminots qui empêche les trains d'arriver et de partir à l'heure.
Je sais que c'est pas vous qui l'avez dit.
Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, vous nous expliquiez que les Français étaient pour cette réforme. Oui. On sait rien s'ils sont pour cette réforme. En tout cas, tout le monde est pour qu'il y ait une réforme de la SNCF, c'est sûr. Tout le monde veut son train partir à l'heure et arrive à l'heure. Mais il faut pas mentir aux Français. Il faut pas leur dire que c'est en changeant le statut des cheminots que ça va changer la donne. Ce qui va changer la donne, c'est effectivement à quel moment cette entreprise a un vrai projet d'investissement de service public, d'accès de tous à la mobilité au plus près des territoires. Et c'est là où il y a un problème aujourd'hui. Il y a une incompréhension, il y a une absence de communication et d'information sur ce que vont devenir les petites lignes de ruralité. Et là, les maires de communes sont tous là pour dire qu'ils ont des inquiétudes par rapport à ça. Il n'y a pas de financement prévu. Donc c'est là le problème. C'est la question du financement. C'est qu'est-ce qu'on veut, quel système de ferroviaire on veut. Si et aujourd'hui, les syndicats, ils ont raison de dire aujourd'hui la solution. Le changement d'une entreprise passe aussi par les salariés de l'entreprise. Et aujourd'hui, les premiers concernés, c'est effectivement les cheminots.
C'est typique la campagne de reconquête du client ou de l'usager lancée par Guillaume Pepy pendant le week-end. C'était quoi ? 3 millions de billets gratuits. De quoi ? De TGV. C'est typique, ça. Bon, la reconquête des clients de la SNCF, elle passe par tout. Et effectivement, on a besoin de cette réforme parce que, on croira à sa reconquête.
Alors,
aujourd'hui,
juste une
non.
chose. Rapidement, Stéphane Hernet, parce que je voudrais qu'on entende tout le monde.
Non, je pense qu'effectivement, il y a un problème. C'est un problème de méthode. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'impression que tout a été boutiqué à l'envers dans cette réforme de la SNCF et de cette réforme ferroviaire. Parce que c'est seulement maintenant qu'on va commencer à parler de la loi orientation et mobilité, alors qu'il aurait sans doute fallu commencer par ça pour avoir une vision stratégique claire de ce qu'il fallait faire. Et peut-être qu'à l'arrivée, une des pistes aurait été de dire le statut de cheminot coûte 700 millions d'euros à la SNCF par an, c'est pas l'essentiel du problème, c'est une partie du problème avec d'autres choses. Et aujourd'hui, on a tout pris à l'envers et on se cristallise sur des choses qui fait que il y a plus de dialogue, on n'avance pas, alors qu'il faudra bien la faire.
Une dernière question sur le sujet. Pourquoi l'intersyndicale tient-elle à la SNCF et pas ailleurs? Pourquoi finalement, on a l'impression que sur d'autres domaines, il n'y a pas d'intersyndicale, que les syndicats ne s'entendent pas, mais par contre, la SNCF, même si on sait qu'il y a des différences entre syndicats, là, ils font quand même bloc.
Bah parce qu'on a une profession qui est très mobilisée depuis longtemps, qui défend l'idée même du service public, l'idée même de la mobilité.
Donc on n'est pas seulement sur la SNCF, on est sur le service public. En général, je pense que
des syndicalistes, c'est qu'ils sont là pour défendre le service public du fret du ferroviaire, et que ce qui a été le problème du ferroviaire et de la SNCF, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans de politique publique de l'État qui ont mis le paquet sur des grandes lignes de TGV qui ont coûté énormément d'argent, qui font qu'aujourd'hui il y a une dette qu'on veut faire payer aux cheminots, alors qu'aujourd'hui les cheminots c'est ceux qui font vivre
mais qui dit ça, on veut rien faire payer aux cheminots. Ceux qui sont cheminots aujourd'hui ne changent pas de statut. On veut rien leur faire payer, au contraire on dit
ce que je veux dire c'est que le gouvernement ne répond pas à la principale préoccupation des gens, c'est à quel moment on a un projet d'avenir sur le ferroviaire aujourd'hui. On ne l'a pas, il n'y a pas d'investissement d'avenir. On parle d'Europe, c'est un sujet pour Emmanuel Macron, mais qui nous fasse rêver sur l'échelle européenne sur la question du ferroviaire.
Du service public, zéro.
Allez, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir sur ce sujet de la SNCF. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron condamne ce soir les violences à Gaza. Le président de la République annonce qu'il parlera à tous les acteurs de la région dans les prochains jours. En marge de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, l'armée israélienne a tué au moins 52 manifestants palestiniens, dont 8 enfants de moins de 16 ans, blessé également 2200 personnes. C'était à la frontière avec Israël. La garde à vue de l'ami de Khamzat Azimov, prolongée ce soir à Levallois-Perret. L'homme de 21 ans a été interpellé hier à Strasbourg. Les parents de l'assaillant restent eux aussi en garde à vue après l'attaque mortelle au couteau samedi soir, place de l'Opéra à Paris, avec un mort et 4 blessés. C'est la fin d'une journée sans cheminots ni train. Au 18e jour de conflit, la direction de la SNCF promet pour demain un retour progressif à la normale pour le trafic dans la matinée, avec 9 TER sur 10. Circulation normale des TGV et trains internationaux. Aujourd'hui, avec plus de 27% de grévistes, les syndicats ont réussi à redonner de la vigueur à leur conflit.
À Limoges, les examens pourront avoir lieu après-demain, mercredi, mais il reste encore quelques campus concernés par le blocage de certains étudiants. La fac de Nanterre reste bloquée, Paris 8 en partie, ou encore la fac de Marseille. Et puis Neymar sera tête d'affiche du Brésil pour le mondial du mois prochain. L'attaquant vedette du PSG s'est remis de sa blessure de fin février. Il sera bien dans la liste des 23 joueurs retenus dans l'équipe nationale. Avec Neymar, le Brésil tentera de décrocher un sixième titre russe, un sixième titre mondial en Russie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, samedi, nouvelle fois, l'effroi a glacé les rues de Paris. Dans un quartier de vie, de théâtre et de comptoir, l'écho du cauchemar a résonné puissamment. Un mort, quatre blessés et une attaque au couteau revendiquée par l'État islamique. L'auteur de l'attaque, Khamzat Azimov, 21 ans, né en Tchétchénie, naturalisé français. En 2010, dépourvu d'antécédents judiciaires, mais fiché S depuis 2016, car en lien avec une personne partie en Syrie. Depuis samedi soir, les questions, toujours les mêmes, autour des fichiers S et du gouvernement. Les Républicains et Front National ont lancé l'offensive. On écoute la vice-présidente des Républicains, Virginie Camel.
Nous sommes en guerre. Notre arsenal juridique n'est pas suffisant. Les forces de l'ordre font un travail remarquable. Les services de renseignement font un travail remarquable. Pour autant, on continue à compter nos morts. Emmanuel Macron a fait un discours remarquable, et je suis la première à le reconnaître, aux Invalides.
Dommage.
Mais depuis, pas une annonce, pas une décision pour prendre, une fois encore, à bras-le-corps ce problème. Nous avons besoin d'agir et nous voudrions que le gouvernement nous entendre.
Voilà, vice-présidente des Républicains, Virginie Calmel sur BFM. Et donc, c'est fini. Donc, les moments de recueillement. Désormais, la polémique politique enchaîne directement. Et le porte-parole du gouvernement cible ses critiques, Benjamin Griveaux.
Je dirais aux oppositions, et notamment à l'opposition de droite, que très franchement, elle n'a pas instruit un procès très politicien sur ce sujet quand elle a elle-même démantelé le renseignement territorial et supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police lorsqu'elle était en responsabilité. Je note que le groupe Les Républicains n'a pas voté la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme au mois de novembre dernier. C'est dommage qu'il n'ait pas été à ce rendez-vous. Ils parlent beaucoup, ils agissent peu. Je dis simplement qu'il aurait été responsable qu'il nous accompagne sur ce texte et que sur ce sujet, il y ait un peu d'unité nationale.
Voilà, Benjamin Griveaux, donc hier sur RTL, Unité Nationale, Aurélie Motte-Arrivée, ça fait très longtemps qu'on ne vous voit plus sur le sujet.
Je crois qu'effectivement c'est assez regrettable qu'on tombe toujours dans cette séquence qui sert à repolariser la vie politique entre la gauche et la droite, voire à instrumentaliser l'émotion des Français. Mais moi je crois au contraire qu'il y a eu un discours de vérité, de transparence, en expliquant qu'il n'y a pas de risque zéro. Il me semble que l'opinion publique aujourd'hui a la maturité suffisante, malheureusement, après l'ensemble des attentats qu'on a eu depuis Charlie Hebdo, le Bataclan, pour comprendre cela. Et je crois qu'il y a vraiment une grande maturité de l'opinion et que les Français, finalement, ne se laissent pas manipuler dans cette séquence.
Oui, c'est ça. Pierre Jacquemin, quand vous entendez justement aujourd'hui, alors, il est sûr que Benjamin Griveaux l'a dit, voilà, il cible davantage la droite, notamment les Républicains, le Front National, Nicolas Dupont, aignant sur le sujet. Est-ce que finalement on peut encore parler voilà d'union nationale comme on en a parlé après janvier 2015 et puis elle s'effritait petit à petit hein, à chaque nouvel acte terroriste malheureusement.
C'est un peu brutal dit comme ça, mais quand j'entends les propos de Madame Calmel, je me dis quand même qu'on est une classe politique quand même relativement médiocre, si ce n'est vraiment excessivement médiocre. C'est-à-dire que quand on choisit de cibler le manque de moyens sur, ou en tout cas la question des, ou taper sur la question des renseignements, c'est vraiment chercher l'alibi quand on n'a pas de proposition soi-même à donner. Il faut dire, il faut le reconnaître, je crois qu'il y a de nombreux experts qui s'expriment sur le sujet, que se faire poignarder dans Paris, ça peut arriver à n'importe quel moment, que ce soit un acte terroriste ou pas un acte terroriste, c'est quelque chose qui est inévitable et que personne ne peut le prédire, personne ne peut dire que ça n'arrivera jamais. Ouais. Donc les propos de cette femme politique qui est quand même la numéro 2 des Républicains ne me paraissent pas à la hauteur d'une réponse politique. Par ailleurs, pour une fois, on n'a pas un regain de... vous savez, la fameuse stratégie du choc de Naomi Klein qui explique que quand on a un acte terroriste, on va tout de suite surlégiférer, il faut légiférer encore plus, il faut faire une nouvelle loi, etc. On vient de passer une loi, la loi antiterroriste, qui est sans doute une des lois les plus liberticides qu'on a votées de ces 30 dernières années. Je me réjouis qu'aujourd'hui, on décide pas de le légiférer, même si, effectivement, il faut quand même évidemment dire qu'il y a un mort qui a été révélé ce week-end, et que c'est dramatique.
Oui, alors, François Orsival, quand Laurent Wauquiez lui demande à Emmanuel Macron de réunir, là, dans un tweet, de réunir les responsables de partis pour échanger sur la lutte contre le terrorisme, à quoi ça sert, en fait? Est-ce que c'est utile?
D'abord, la multiplication des lois qui viennent devant le Parlement. J'ajoute que ce qui a été discuté à l'Assemblée nationale va venir maintenant devant le Sénat. Donc, ouais. Cette discussion ne cesse pas. Et je dirais que chaque fois qu'il y a un attentat, ben, effectivement, les polémiques, la discussion, le débat public relance tous les sujets en question. Le job de la droite, c'est pas étonnant que la droite critique le gouvernement. En revanche, elle devrait, elle, se mettre en disposition, comme le fait le groupe sénatorial majoritaire au Sénat, de proposer et d'aller au-delà. Mmh. Et donc d'être dans ce domaine les plus constructifs qui soient.
Le problème, c'est que souvent les Républicains, il y a une proposition hein, qu'ils font. On entend oui. Ricciotti, c'est toujours interner les fichiers S. Le problème, c'est que c'est toujours leur proposition. Bien sûr. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire.
On est entre deux. D'une part, il ne faut pas que le risque zéro, vous avez raison de dire il n'y a pas de risque zéro, il ne faut pas que ça devienne une excuse, c'est-à-dire qu'on se dise le risque zéro n'existe pas, donc on ne fait rien. Non. On agit, et d'ailleurs, probablement, est-ce que le gouvernement devrait faire un peu plus de pédagogie sur tous les attentats qu'il prévient, qu'il anticipe, qu'il démolit. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, il faut perpétuellement agir dans ce domaine, on ne va pas se désarmer. On va pas se laisser.
Vous avez une impression de désarmement en ce moment de la part de Gérard Collomb.
J'ai pas cette impression, l'idée, il y a pas de risque zéro, tente à devenir dominante dans le discours, et donc bon, bah les gars, c'est pas grave.
Il y a pas de risque zéro, mais il y a pas de solution miracle non plus. C'est ce que vous dites.
Il y a pas de solution miracle. En revanche, il y a du travail à faire. Perpétuellement.
Stéphane Vernet, pour vous, il y a quoi? C'est une habitude? C'est quoi aujourd'hui ce que dit François Orcival? On s'habitue, donc finalement, on accepte ça?
Non, on ne peut pas s'habituer à l'inacceptable. C'est absolument inacceptable. Il ne faut pas s'y habituer. Par contre, il faut s'attendre à ce que ça se reproduise. Ça peut même monter en intensité. C'est le monde dans lequel, malheureusement, on vit aujourd'hui. Alors, interner les fichiers S. Il faudrait changer les lois.
Oui, tout à fait.
Les Américains ont bien ramassé tous les Japonais au lendemain de Pearl Harbor. Combien on en ramasse? Sur quels critères? 4 000? 15 000? 20 000? Combien de temps on les garde? Sur quel motif? C'est délirant. On est dans une démocratie. Quand quelqu'un a purgé sa peine, il sort. On va avoir un problème très sérieux avec les combattants qui ont été condamnés dans les années 2013-2014, les premiers qui vont commencer à sortir, qui sont des gens qui se seront pas amendés en prison, qui sont parfaitement aguerris, qui en veulent à mort à la France et à la République et qui seront capables d'organiser des choses autrement plus graves que ce qui s'est passé samedi, même si, encore une fois, ce qui s'est passé samedi est gravissime et inacceptable.
Bien sûr, ouais.
Moi, je parle là d'actions coordonnées, de vraies opérations.
Comme on l'a pu voir au 13 novembre.
De grande ampleur. Il y a une piste où il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou pas exploré en France parce que c'est pas du tout dans notre culture et que c'est illégal, mais c'est ce que font les États-Unis, par exemple, depuis 11 septembre. Les États-Unis, avant le 11 septembre, avaient beaucoup privilégié l'espionnage ou la recherche d'infos via les outils numériques, l'écoute des réseaux.
Vous parlez du Patriot Act, en fait.
Avant le 11 septembre. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils l'ont fait au détriment de l'intelligence ou des réseaux humains.
Ah oui.
Infiltrations, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Après le 11 septembre, ils ont commencé à remettre des gens dans le réseau, à surveiller les réseaux. Et ce que font eux, qu'on ne fait pas du tout, c'est qu'ils ciblent les gens les plus dangereux ou qu'ils estiment les plus dangereux. Et ils les poussent à la faute en les contactant, en se faisant passer eux-mêmes pour les.
Comme les vraies affaires.
Chez nous, c'est illégal, c'est interdit. Mais ça, c'est une méthode qui permet de repérer et de faire tomber entre guillemets des gens en les poussant à l'acte.
Bien sûr.
Et en pouvant les condamner sur des faits réels.
Aurélie, vous êtes arrivée.
Moi, je crois que l'imprévisibilité finalement rend caduque tous les discours extrémistes et les tentatives de récupération. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, ce qui me frappe effectivement, c'est qu'il y a une forme de fatalisme, peut-être des Français, mais il faut aussi vivre avec. C'est terrible, mais on était tous, vous étiez la plupart ici à Paris ce week-end. Les gens continuent à aller en terrasse, etc. Et je pense que c'est aussi un instinct de survie. C'est très humain.
Alors, on va continuer en parler dans un instant. L'info à 20h50. Stéphane Milhomme.
Israël s'est défendu contre le Hamas. La justification ce soir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou quand les États-Unis dénoncent eux aussi la responsabilité du Hamas. En marge de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, Tsahal a tué au moins 52 manifestants palestiniens, dont 8 enfants de moins de 16 ans. Blessé également 2200 personnes. C'était à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. De timides avancées en Italie pour un accord de coalition et former un gouvernement. Le chef du mouvement 5 étoiles anti-système demande ce soir encore un délai pour espérer boucler un accord de gouvernement avec la Ligue, formation d'extrême droite. Il reste à régler des points comme les infrastructures, mais aussi et surtout l'immigration ou encore les rapports avec l'Union européenne. Une garde à vue de quelques heures pour le candidat de Koh-Lanta. L'homme soupçonné d'agression sexuelle sur une candidate a été entendu toute cette journée par les enquêteurs. Ce soir, il est libre après avoir été interpellé dès ce matin à sa descente d'avion à Roissy et l'enquête se poursuit. La SNCF porte plainte après une cinquantaine d'incidents toute cette journée. Incidents, actes de malveillance comme cette coupure d'alimentation électrique à Marseille ou encore le sectionnement d'une caténaire en Normandie. Ces faits interviennent en pleine journée de mobilisation renforcée des grévistes opposés à la réforme du ferroviaire. Et puis l'Allemand Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du PSG. Le club de Ligue 1 l'annonce ce soir. L'ancien entraîneur de Dortmund signe pour 2 ans avec Paris. Son grand défi est de faire mieux que ses prédécesseurs en Ligue des Champions.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des suites de l'attentat survenu samedi soir à Paris dans le quartier de l'Opéra. Une chose, François Dorcival, on voit qu'au Front National, on demande des actes. Nicolas Dupont-Aignan lui demande le rétablissement de l'état d'urgence. À chaque fois, on nous ressort l'état d'urgence. On sait que la plupart des dispositions de l'état d'urgence sont dans cette nouvelle loi proposée par Gérard Collomb. On sait que malheureusement, cet état d'urgence n'a pas empêché également l'attentat de Nice, entre autres.
Oui,
les autres, pourquoi finalement reprendre ça? Comme en permanence.
Bah parce que ça fait partie du langage.
C'est-à-dire qu'on est dur, qu'on est fort. C'est-à-dire qu'on dit un état d'urgence, ça veut dire qu'on est.
Oui, ça veut dire bon. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui.
Mais enfin, il arrive quand même que dans certains domaines, l'état d'urgence vous donne un peu plus de moyens.
Mmh.
Bon, cela dit, c'est pas évidemment le cœur du sujet.
Oui.
Ça n'est qu'une réponse à l'opinion publique. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la manière dont le terroriste de samedi soir a été neutralisé. Parce qu'il l'a été par une patrouille classique avec un stagiaire, enfin je veux dire un policier stagiaire.
Mmh.
Et c'est lui qui a tiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entraînement des forces de police les plus classiques, des patrouilles simples, est beaucoup plus intensifié qu'il ne l'était autrefois.
Mmh.
Et j'ajoute un autre élément, c'est que les policiers, en effet, n'ont fait feu qu'après un certain nombre de tirs de sommation avec le teaser. Bon, le fait que le terroriste était neutralisé ne provoque plus de soulèvement dans l'opinion.
Mmh.
Donc l'opinion française,
c'est un peu provoqué quand même quand c'est un terroriste. Je ne sais pas si vous avez vraiment des manifestations pour dire vous n'auriez pas dû quand même tirer.
Il y a 5 ans, il y avait.
Ah, je sais pas.
Il y a
non,
5 ans, il y avait, bien
plus,
sûr.
Je me souviens plus de lequel, la France.
Ah,
possible,
bah,
parce que
non, oui.
Là, franchement, véritablement, je ne crois pas que dans l'opinion, on soit choqué quand les forces de l'ordre interviennent.
Ça, c'est fini.
D'accord,
c'est fini.
Oui, bon.
C'est
très
fini.
Bien.
Et donc, ça signifie une chose, c'est que psychologiquement, les gens sont aujourd'hui dans une situation de vigilance en même temps qu'ils sont effectivement détendus dans leur vie quotidienne.
Une chose, j'aime t'arriver, ça paraît un peu ridicule de ça, mais Emmanuel Macron a été critiqué par l'opposition parce qu'il est resté à Brégançon ce week-end.
Le fait qu'Emmanuel Macron soit critiqué par l'opposition jusque-là,
bien
tout
sûr,
va bien.
Voilà, qu'il soit resté à Brégançon, ce week-end, qu'il ne soit pas revenu à Paris.
Mais je pense qu'on peut pas. Enfin, là encore, c'est le discours de transparence et de vérité qu'on évoquait tout à l'heure. On peut pas être tout le temps dans la surréaction et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, être effectivement dans une loi ou un texte. On a déjà l'arsenal qui est nécessaire. Je pense qu'il a fait part de son émotion. Les ministres étaient sur le terrain.
Mmh.
Enfin, je pense qu'on peut pas. Enfin, voilà, faut arrêter de surinterpréter aussi tous les signes de communication.
Pierre Jacquemin, c'est vrai que ce terme. Je crois que c'est un article dans le Huffington Post aujourd'hui. Ce terme de « en guerre » revient à chaque fois, malheureusement, derrière chaque attentat. On se souvient qu'il choquait beaucoup quand Manuel Valls avait évoqué ce terme au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo. Et puis, plus ça va, et puis moins on a l'impression qu'il choque. Ça veut dire qu'on s'habitue à ce terme.
Alors, je pense qu'on ne s'habitue jamais à la violence. En revanche, la France est clairement en guerre. Enfin, non seulement elle est en guerre, mais en plus elle provoque la guerre. On l'a vu encore récemment, la France a décidé d'intervenir en Syrie après que les États-Unis l'aient demandé à la France. Donc la France est en guerre, d'une manière générale. Mais quand même, le climat général, je parlais tout à l'heure de stratégie du choc, ça me semble important que dans nos sociétés occidentales, on ne soit pas à surréagir en permanence à des moments qui sont des moments de choc collectif, parce qu'un attentat est un choc collectif, et qui derrière justifie des privations de liberté, et comme on l'a fait par les multiples lois liberticides qui ont été passées en France, aux États-Unis et ailleurs, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se libérer de ça. J'entendais encore un expert du sujet qui nous l'expliquait, pardon, je ne cherche pas du tout à relativiser, mais il faut quand même rappeler que derrière l'horreur absolue, quand même, et même ce week-end avec un assassinat, un meurtre, les actes terroristes sont la plus faible cause des morts aujourd'hui violentes en France.
Oui, mais vous savez,
l'impact psychologique est colossal. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Et encore une fois, il faut qu'on se mette dans la tête, je crois qu'il est important de se le dire, qu'il est impossible d'empêcher ce type d'acte d'attaque au couteau dans n'importe quelle rue.
Rapidement, parce que sur le terme guerre, justement, Aurélie Motarivé, pour vous, il est approprié ? Là encore,
je pense que c'est une nouvelle forme de guerre, effectivement. Ouais. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on n'a pas forcément la réponse, on n'a pas forcément encore trouvé de solution, et d'où le discours de vérité sur l'absence de risque zéro, par définition, puisqu'on ne peut pas mettre derrière chaque fichier S un policier aujourd'hui.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer ce soir. Merci beaucoup, Pierre-Jacques, d'être passé. Merci, Aurélie Motarivé. Stéphane Vernet, la une de Ouest France demain.
Israël et la Palestine, évidemment.
Bien sûr. François Dorcival.
Nous serons dans le mariage.
Dans le mariage. Très bien.
Windsor, samedi.
Ah bah oui, c'est vrai, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que vous êtes sur la monarchie. Voilà, anglaise, britannique, pardon. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Equili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
À la une, Israël et Gaza, bien sûr. Nos invités, Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Gilles Lejeune de La République en marche, Aymeric Chauprade qui est eurodéputé au Parlement européen et Gilles Bornstein, éditorialiste à France Info.
Bien sûr. Allez, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.